professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Bonjour Sarah.
Bonjour Fabrice.
Sarah Méran sur Nutri Radio, chaque jeudi, ça nous fait bien plaisir. Et on vous avait perdu un petit peu de vue là, ces derniers temps vous êtes revenus. Ah, c'est top. C'est top. Et en même temps, on est en train de préparer des masterclass avec Sarah Méran sur Nutri TV. Et oui, mesdames, messieurs. De quoi vous avez parlé déjà, Sarah?
Moi, j'ai parlé des... je me rappelle même plus.
Voilà, super.
Donc ça, c'est les capacités de résilience du corps, les capacités d'adaptation,
voilà,
et d'optimisation de notre santé, de notre survie.
Voilà une belle promotion bien préparée de ces masterclass. Mais je peux vous garantir qu'en allant sur nutritv.fr, si vous êtes déjà professionnel de santé, de bien-être et intéressé à toutes ces thématiques de la santé qui nous concernent tous, eh bien vous allez vous régaler. Merci à notre partenaire sur ces émissions Extra Time, le laboratoire TerraScience, spécialiste en phytothérapie et dans la micronutrition, évidemment, un spécialiste reconnu aujourd'hui, on peut le dire, c'est un des top labos. Bon, alors Sarah, aujourd'hui, après on a parlé du froid la semaine dernière et on s'est dit, tiens, c'est un sujet que vous vouliez évoquer depuis un moment. C'est l'art, c'est bien ça, l'art qui est de plus en plus reconnu comme une approche thérapeutique complémentaire en médecine fonctionnelle et intégrative, ces thérapies non médicamenteuses, la peinture, la musique, la danse, le théâtre, la sculpture, qui sont des formes d'expression, mais aussi donc des outils puissants pour la santé mentale et physique, c'est ça Sarah?
Ouais, tout à fait. Au fait, je me suis rendu compte que finalement, quand on regarde l'histoire de l'évolution, l'art, tient une part toujours importante et on se dit, bah tiens, finalement, à l'époque de la préhistoire, pourquoi on pouvait se soucier de décorer les grottes ou raconter, faire des dessins, faire de la musique, etc. Et ben, du coup, bah, c'est parce que ça a des propriétés santé, bien-être, développement des capacités cérébrales, l'imagination, découverte scientifique. Et ben, finalement, ça s'appuie sur la culture de l'art, du beau. Et du coup, c'est pour ça que ce sujet m'a bien intéressé.
Si vous aviez terminé votre phrase sur le beau, là, non, on n'aurait pas été d'accord. Parce que même vous, hein, vous avez senti qu'il fallait que vous continuiez votre phrase. Alors, on va explorer ensemble les mécanismes neuroscientifiques et physiologiques de l'art-thérapie, ses indications médicales, ses limites aussi, voilà, histoire de vous apporter un éclairage précis à tous ceux qui nous écoutent, voilà, les professionnels de santé intégrative, les auditeurs passionnés par ces approches. Alors, vous, on sait que vous êtes... médecin spécialiste, on va dire, anti-âge, même si c'est un terme que vous avez redéfini, et longévité. Vous vous intéressez à toutes ces approches, dont l'art-thérapie. Quels sont les mécanismes physiologiques et cognitifs principaux et les bénéfices donc quand on pratique l'art-thérapie? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau?
Il y a l'art-thérapie, mais il y a l'art tout court. C'est-à-dire que l'art, le fait de faire une activité artistique, que ce soit de la danse, du chant, aller regarder une pièce de théâtre, aller voir des toiles au musée ou quoi que ce soit, en fait, ça, le beau, ou quelque chose qui, ça déclenche des émotions à l'intérieur du corps, et les émotions sont déjà bénéfiques pour le bien-être. Notamment les belles émotions stimulent notamment la dopamine, qui du coup le circuit de la récompense, etc. En même temps, ça stimule tout ce qui est relations sociales. En général, quand on fait de l'art thérapie ou qu'on fait de la musique, du chant, de la danse ou quoi que ce soit, on croise du monde, on partage. Ça joue énormément. C'est un facteur aussi du bien vieillir puisque les interactions sociales sont essentielles au développement du système immunitaire, mais également de nos capacités intellectuelles, de fabriquer plein de petits nouveaux neurones, une nouvelle synaptogénèse, etc.
Synaptogénèse. Alors, ça, c'est un mot qu'il va falloir nous expliquer dans un tout petit instant. Sarah, on marque une pause, on se retrouve après ceci.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Les bénéfices de l'art. L'art en tant que thérapie non médicamenteuse, que l'on pratique l'art ou que l'on assiste à quelque chose qui nous fait du bien, le beau. Par exemple, il y a des gens là qui se mettent pendant des heures à regarder Sarah Méran, ils se sentent mieux, ils se disent « mais oui, voilà, on y est, c'est de l'art ». Vous avez parlé de la synaptogénèse, je vous ai interrompu, je me suis permis de vous demander quand même une explication, parce que même si on a des auditeurs un peu experts, tous ne le sont pas non plus, dont moi d'ailleurs.
Donc, la synaptogénèse, au fait, qu'est-ce qui fait le pouvoir de notre cerveau? C'est le nombre de connexions neuronales. C'est le nombre de fois où un neurone est connecté à d'autres neurones. Et donc, la synaptogénèse, c'est la création de nouvelles connexions neuronales. Donc, c'est comme si on étoffait notre circuit électrique pour qu'il y ait du coup de plus en plus de neurones qui communiquent ensemble et qui travaillent ensemble.
Et donc, l'art, c'est un vrai bénéfice pour cela, pour la synaptogénèse? Ouais.
Tout à fait. Ne serait-ce que, par exemple, vous avez envie de dessiner un truc. Je ne sais pas moi, une pomme. Il va falloir imaginer la pomme. Donc, vous allez visualiser la pomme. Vous allez prendre votre main droite si vous êtes droitier. Vous allez commencer à faire un dessin. Ensuite, vous allez vous dire, tiens, il va peut-être falloir retravailler ceci. Donc, vous allez faire bosser une autre partie du cerveau et ainsi de suite, qui va faire que finalement, vous allez mettre en jeu plein de différentes connexions, plein de différentes capacités et compétences qui vont bosser ensemble pour vous donner un super dessin de pomme. Ah, et bah, tout ça, ça stimule la plasticité cérébrale et le travail de plusieurs aires du cerveau ensemble. Et c'est ce qui nous permet aussi de mieux vieillir.
Et donc, ça veut dire que toutes les disciplines se valent? Ou par exemple, le dessin, c'est plus bénéfique que la danse, par exemple?
Je ne sais pas si on les a comparés. Tout ce qui est important, c'est que ce soit varié et que ça stimule. Par exemple, on a montré que la différence entre l'activité physique et la danse dans le vieillissement et la santé, que la danse est plus bénéfique que l'activité physique.
Ah, toutes les danses ou le slow aussi?
Toutes les danses. Du moment qu'il y a une coordination, qu'on s'attache à une musique, que ça déclenche du plaisir, etc., bah, c'est plus bénéfique que faire du sport pur.
Ah, ah bah ça on le note, parce qu'on va se mettre tous à danser. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui dansent, j'ai l'impression. Est-ce que vous dansez, vous, dans l'eau froide? Vous n'avez pas parlé des bénéfices de la danse en eau froide?
Eh bien, ça devrait se développer. Alors, la danse en eau froide, non, mais la danse tout court, je danse super mal, mais j'ai décrété à 40 ans que je m'en fichais et que du coup, maintenant, je danse à fond. Super mal, mais c'est pas grave.
Super mal, mais à fond.
Je me fais plaisir et après ça... Il y a un espèce de bien-être général qui est impressionnant.
C'est comme Phoebe dans Friends, quand elle apprend à courir. C'est pas courir, mais elle court n'importe comment. Mais elle se dit, moi, je m'en fous, je me sens bien et après, ça me fait plaisir. Est-ce que l'art, il a un impact mesurable sur les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine?
Ouais, c'est démontré que ça joue énormément justement sur la dopamine, sur la sérotonine et sur l'ocytocine. C'est pour ça que dans les centres maintenant de prise en charge de dépression, et bah, du coup, il y a de plus en plus d'art et d'art-thérapie. Et ça a même été démontré chez les personnes démentes. Le fait de faire écouter de la musique ou de faire une petite pratique artistique diminue le niveau d'anxiété et les troubles du sommeil des personnes démentes.
Et est-ce qu'on peut se dire que c'est l'équivalent ou pas sur les neurotransmetteurs? Je parle de est-ce que c'est comparable à la méditation en termes d'impact aussi sur le stress et la régulation émotionnelle?
Eh bien, je pense que ça peut être à certains niveaux pareil et à certains niveaux différents. Tout dépend de la pratique d'art. Je me souviens d'une de mes consoeurs avec qui on a fait nos études de médecine à Paris, qui travaillait dans un centre de stress post-traumatique, donc des gens qui avaient vécu des choses extrêmement difficiles et qui avaient instauré la trichothérapie. Donc, ils tricotaient pendant leur séance où ils expliquaient donc leur traumatisme pour avancer dessus. Et ça les mettait dans un état un peu pseudo-méditatif qui permettait aussi de lutter contre l'anxiété et du coup de parler des traumatismes pour pouvoir avancer dessus.
Alors, ça, reculez un tout petit peu du micro, si ça vous éloignez un tout petit peu le micro de la bouche, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est mieux ?
Oui, c'est mieux, c'est très bien. Alors, la trichothérapie, j'avais aussi entendu parler des puzzles, tout ça. En fait, c'est toutes ces activités qu'on va retrouver finalement aussi beaucoup, vous savez, à l'âge de l'enfance, mais aussi après dans les maisons de retraite. On revient à des choses, on se dit, on aurait peut-être jamais dû arrêter.
C'est ça. En fait, on ne devrait pas arrêter de jouer et de créer. Et c'est justement en devenant adulte, on a l'impression que c'est superflu et que ça sert à rien. Alors que c'est la base, finalement, aussi de notre équilibre et que peut-être il y aurait moins de burn-out, moins de dépression et peut-être aussi moins de violence et d'agressivité si finalement on gardait tous des activités artistiques régulièrement. J'ai fait mes études à un moment donné pendant mon adolescence en Autriche et les activités artistiques tenaient une part beaucoup plus importante dans le rythme scolaire que chez nous, enfin en tous les cas que chez moi à Paris, avant.
Mais vous savez, même les...
Et j'ai trouvé ça génial.
C'est aussi pour ça aussi que les entreprises, vous savez, à l'époque, l'émergence de Google et compagnie, dans la Silicon Valley, ils avaient des baby-foot, des machins, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que je pense qu'ils ont noté très vite l'intérêt de ces jeux, de ces pratiques. Bon, on parle d'art, mais quelque part, le jeu est important aussi pour la bonne santé.
Tout à fait. Le jeu, l'art, le... Tous ces trucs où on peut avoir du bien-être avec du plaisir et ça permet aussi de... Ben on voit déjà l'effet du sport sur pendant les Jeux Olympiques. On a vu que d'un seul coup, ben, il y avait une espèce de solidarité nationale, que les différences d'identité, les différences de culture, d'un seul coup, tout s'était évaporé pendant cette période de jeu.
Est-ce que le théâtre, par exemple, aussi, ça a des vertus ?
Oui.
Oui,
énormément, parce qu'il y a l'apprentissage du texte, il y a le fait d'interagir avec les autres, donc il faut savoir jouer avec les autres pour justement créer une ambiance, etc. Il y a aussi le fait de lâcher prise d'un seul coup. Moi, je conseille pas mal le théâtre d'impro à mes patients qui ont un manque de confiance en eux ou qui ont une envie de tout contrôler. Eh ben, le fait de faire du théâtre d'impro permet d'apprendre à perdre le contrôle et finalement l'utiliser pour se sentir bien et se rendre compte qu'on a des capacités dingues à partir du moment où on lâche prise.
Ah oui, ça.
Donc ça prend aussi le lâcher prise.
Ah, complètement. Là, c'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé. Est-ce qu'il y a un impact qu'on peut mesurer de la création artistique, par exemple, sur l'inflammation ? Est-ce que l'art, en gros, peut modifier notre biologie et nos marqueurs de santé ?
Alors, il y a une étude qui a été faite en 2019, qui est parue dans le British Medical Journal, qui montrait qu'il y a une réduction jusqu'à 31% de décès prématurés chez les gens qui pratiquent des activités artistiques régulières.
Pam, ça...
31% quand même. Hein.
Je le note parce que c'est quand même assez significatif. 31%, ouais, c'est pas 2%. Mesdames, messieurs, réfléchissez à ça, méditez là-dessus. On va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
La pratique de l'art pour notre santé, pour notre bien-être. On en parle avec le docteur Sarah Méran aujourd'hui dans cette émission Extra Time. Très intéressant hein, ce chiffre comme vous nous avez donné juste avant la pause. 31% des personnes qui pratiquent l'art... Non, attendez, c'était quoi la stat exacte ?
Qui pratiquent des activités artistiques régulièrement, 35% de risque de décès prématuré en moins.
Ah ouais, il faut vraiment que je me remette à la corde à sauter moi, attendez. C'est
ça.
Le babé.
Et là, j'ai trouvé une autre étude de la Mayo Clinic de 2014 qui montre qu'il y a 73% de risque en moins de développer des troubles cognitifs.
Ouais, ouais. Là, il faut, ça devrait être des programmes obligatoires, ça. Quand on voit tous ces bénéfices, ça coûterait moins cher en plus à la Sécu.
Et oui, et puis on pourrait utiliser le beau en plus pour mettre du bien-être à droite à gauche.
Ah oui,
D'où la street art hyper intéressante, finalement, les beaux tags faits sur les murs, ben finalement, ça fait du bien à tout le monde quand on attend au feu. Chez moi, à côté de chez moi, il y a un mur justement où les jeunes taguent régulièrement. Ben, quand j'attends au feu, c'est un vrai bonheur de voir ces différents tags qui évoluent en permanence et ça fait du bien.
Ouais, ben vous êtes quand même au pays des oui-oui là, parce que les tags, je peux vous dire qu'ils sont pas tous beaux. Hein. Il y en a, c'est un peu n'importe quoi, ça dénature pas mal de villes aussi.
C'est pour ça que je dis que c'est des tags contrôlés, c'est des murs spécifiquement faits pour.
Ah oui, oui.
Et j'ai dit street art.
Alors, je vais venir vous taguer votre voiture, vous allez voir. Il ne faut pas confondre le tag et le street art, vous avez bien raison.
C'est vrai, tout à fait.
J'adore le street art, c'est notre ami Banksy notamment. Enfin, il y en a plein, je dis ça, c'est le plus célèbre peut-être, mais c'est vrai que c'est fascinant. Et quand on est comme ça, en train de marcher dans la ville et qu'il y a des belles réalisations comme ça artistiques, c'est vrai que c'est beau, c'est même bluffant. À Marseille, il y en a pas mal aussi, c'est... Très intéressant. Alors, est-ce que, pareil, on est obligé d'aborder cet aspect-là, même si on va nous dire oui, mais pourquoi, machin, mais les contre-indications, est-ce qu'il y a des limites et des contre-indications à l'art-thérapie ? Je plaisante en posant cette question, mais tout est dans l'équilibre.
Je ne suis pas persuadée qu'il y ait une limite. Après, éventuellement, la seule limite, c'est de s'y investir à fond et de se dire je laisse planter mon boulot, j'arrête tout et je me lance que dans l'art. Voilà, j'ai décidé de devenir artiste alors qu'on n'a pas forcément du don là-dedans en se disant bah non, c'est bénéfique pour ma santé, donc je plante tout et je vais faire que de l'art. Pas sûr que ce soit si facile d'en vivre, que ça fasse partie d'un équilibre santé, que quelques personnes aient cette capacité de pouvoir en vivre, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, voilà, plutôt l'intégrer dans un mode de vie bien-être.
Alors, est-ce que vous l'intégrez justement dans des protocoles de soins pour vos patients ?
Protocole de soins,
c'est-à-dire vous
pas
dites
vraiment,
à vos patients,
je leur en parle. Je parle de la trichothérapie des fois quand ils sont anxieux. Je parle d'activité artistique. Mais par exemple, hier, j'avais une patiente qui est venue me voir, qui est anorexique, qui n'est pas très bien dans sa peau, qui met des appliqués larges parce qu'elle ne veut pas se voir squelettique, etc. Et je lui ai demandé qu'à chaque fois qu'elle vienne, en fait, elle s'habille de façon colorée et festive. Et ben, elle a pris goût et maintenant, ben, elle s'habille de plus en plus colorée. Elle se développe son propre style, sa propre personnalité, j'allais dire vestimentaire, et ça lui fait beaucoup de bien. Et elle est très fière à chaque fois de montrer justement comment elle progresse et qu'elle est passée du mode furtif où j'essaye d'être transparente et personne me voit à j'affirme qui je suis et je développe ma personnalité artistique.
Et ça, c'était une patiente qui venait vous voir à la base pour des troubles. Enfin, ouais, c'était parce que vous n'êtes pas psy, donc c'était elle venait vous voir. C'était un conseil que vous lui avez donné en plus pour son bien-être par rapport à quoi ?
Elle avait une forme d'anorexie parce qu'elle était persuadée que elle était mal, ça lui donnait des douleurs abdominales et des ballonnements et des troubles du transit. Et donc, du coup, elle était venue me voir dans l'objectif d'améliorer son microbiote.
Ah oui, vous avez eu cette. On aimerait bien avoir des médecins tous comme Sarah Méran. Hein. Mais non, parce que c'est les petits détails comme ça, enfin, ça n'en est pas justement, parce que ça contribue après à reprendre confiance en soi, et quand on sait aussi que le mental il a cette influence sur notre santé, juste dernière question peut-être pour terminer, Sarah, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux professionnels aussi de santé qui nous écoutent, qui souhaiteraient inclure cette approche dans leur pratique ?
Ben ne serait-ce que par exemple... Enfin, moi, mettre des tableaux en salle d'attente, mettre des affiches sur des différentes expositions, sur les différents ateliers artistiques, sur les clubs de danse, sur le théâtre, sur le gospel. Plein d'affiches de ce type-là en salle d'attente. Comme ça, pendant que le patient attend, parce qu'on est souvent un peu en retard.
On est souvent un peu en retard.
Ça attend de cheminer dans sa tête et justement de semer la graine de l'envie de faire autre chose et éventuellement dans la consultation, pas hésiter à relancer, à mettre des petits indices dessus pour éveiller cette envie chez le patient.
Ah, ça c'est une bonne idée, c'est vrai que dans les salles d'attente parfois c'est un petit peu mur blanc, revue d'il y a 4 ans, voilà, on se regarde tous comme ça en se disant j'espère que je vais pas... C'est vrai que la salle d'attente c'est déjà un lieu de récupération, on devrait déjà se sentir un peu plus, un peu moins stressé, un peu mieux, déjà un peu plus dans le confort. Je pense à ça pour terminer. Est-ce qu'un aquarium, par exemple, c'est pas mal aussi, ça ?
Ouais, un aquarium, pourquoi pas, tout à fait.
Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est un aquarium, ça détend.
Il peut un aquarium, des fleurs. Moi, je sais que j'ai une secrétaire qui adore faire de l'art floral. Finalement, elle s'amuse dans la salle d'attente. Et ben, suivant les personnalités, il y en a plein qui adorent. Et ça éveille, ils disent « Ah, elle a trouvé ça où ? Comment elle a fait ? Je trouve ça sympa, je vais mettre ça dans mon salon, je trouve ça rigolo. » Moi, je mets plein de tableaux un peu rigolos, ils disent « Ah, celui-là, je ne l'avais pas vu, je les change un peu de place, etc. » Ben, mine de rien, ça éveille une espèce de curiosité, de sensibilité artistique qui fait du bien aux patients. Et souvent, ils arrivent un peu en avance en salle d'attente, finalement, alors qu'ils vont attendre. Hein. Mais je dis que c'est le dernier salon où on cause.
Merci beaucoup, Sarah.
On retrouve aussi des idées.
Oui, exactement. Merci beaucoup, Sarah. Cette émission est à retrouver en podcast tout de suite, là, sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts. Et puis, on va aussi nous se retrouver la semaine prochaine. Au revoir, Sarah.
Au revoir, Fabrice. Merci beaucoup.
C'est
à bientôt.
C'est retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Restez avec nous.
Extra Time, Sarah Mérand sur Nutriradio.